Voilà, il y a un mois, je suis allé à Épinouse pour voir un événement, la naissance de ma petite fille Laetitia. Et donc, on a fait un bel accueil de notre petite fille. Et elle a tout changé, Elle m'a confié un nouveau statut. Je suis devenu papy. Elle n'a rien fait, sauf mais son dans le monde m'a complètement transformé. Et ça a transformé ma propre fille. Elle est devenue Tati. Elle est Myriam Tati Rive maintenant. Elle est Tati Rive. Et maintenant, quand je me réveille le matin, je me rends compte que j'ai passé la nuit avec une grand-mère. L'autre jour, j'ai dit, mais mince, j'ai passé la nuit avec une grand-mère. Elle est aussi toujours aussi belle. Toujours aussi belle, tout aussi jolie. Et donc, on a fait un bel accueil de cette vie. Une petite fille, quelle bénédiction. Et bien sûr, à Noël, un enfant est né dans une crèche, sa maman est Marie. Et le monde a fait accueil de ce cadeau de grâce qui a tout changé. Quand Jésus est né, il a crié, mais c'est une cri de grâce. Je suis venu, je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous laisse pas dans votre péché, dans votre misère. Dans votre déprime, je viens pour vous sauver. Et ceux qui accueillent, ceux qui font un bel accueil de cet enfant, tout est transformé. Et ce matin, je suis venu, j'avais à cœur vraiment de parler des petits-enfants. Et j'aimerais parler de deux petits-enfants. Et encore là, mon petit enfant, elle s'appelle Laetitia. Et c'est parce que, si vous savez ce que ça veut dire, Laetitia. Vous savez, les parents, ils choisissent un nom, et souvent, ils veulent communiquer quelque chose avec ce nom. Et donc, Laetitia, ça veut dire allégresse. Et c'est vrai que, j'espère que cette fille va grandir à apporter beaucoup d'allégresse. Bon, Jésus, ça veut dire quand Marie a nommé Jésus, Marie et Joseph, c'est le nom que l'ange leur avait déjà donné. Ça veut dire sauveur, Jésus. Ça vient de Josué. C'est en hébreu, il s'appelait Yeshua, Jésus. Yeshua, c'était son vrai nom en hébreu. Ça veut dire sauveur, sauveur. Et Christ, c'était son nom de famille, Christ, c'est le même mot en grec qu'en hébreu, Messie. Et ça vient de message, ça veut dire en mettre l'huile, celui qui a de l'huile, qui est imprégné par l'huile, ça veut dire Messie. Et donc quand on dit Jésus-Christ, c'est le Messie qui sauve. Et comme Pascal ce matin, il a parlé d'Israël, on est greffé dans cette promesse d'un Messie qui va venir, celui qui est roi, celui qui va venir nous sauver. Et donc voilà, on donne un nom à un petit enfant. Et j'aimerais vous parler des petits-enfants de Rachel. Vous savez, c'était une femme de Jacob dans la Bible. Et Jacob, il aimait beaucoup Rachel. Elle était très jolie, Rachel. Et elle avait de la peine à avoir d'enfants. Ça prenait du temps. On avait dit qu'elle était stérile et tout ça, mais elle persévérait, persévérait. Et Dieu lui avait confié un Joseph. Après, il lui avait donné un Benjamin. Mais après, il a eu des petits-enfants. Et Joseph était le papa de ses petits-enfants. Donc voilà, je vous donne le nom de ses petits-enfants. D'accord ? Il y a deux noms. Et le premier, c'est pas peut-être il y a des érudits parmi vous. Est-ce que vous savez le nom du premier fils de Joseph ? On ne sait jamais, mais je serais étonné. Mais le premier fils, il s'appelle Manassé. Manassé. Et le deuxième, il s'appelle Ephraïm. Ephraïm. Et donc là, comment dire, quand Laetitia est entrée dans notre vie, oh, j'étais content. Mais aujourd'hui, tout le monde, nous pouvons faire accueil spirituellement, bien sûr, de Christ, parce que chaque enfant qui naît dans l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est une image de Christ qui va naître. Et Christ, il veut naître et grandir dans nos cœurs. Il veut vraiment naître et grandir dans nos cœurs. Et donc, c'est vrai, je vais parler d'Ephraïm et Manassé aujourd'hui, et vous allez savoir pourquoi plus tard. Mais en accueillant ces deux noms, vous accueillez plus de Christ dans votre cœur, par la parole ce matin. Alors là, quelquefois, je mets ma main sur mon cœur et j'accueille, je dis, oh, mais Manassé, Ephraïm. Je vais vous expliquer pourquoi. Et juste avant, il y a aussi l'apôtre Paul, hein, c'était un grand homme de Dieu, l'apôtre Paul. Et lui, il avait l'habitude de former les gens, de faire des disciples et tout ça. Et j'ai dit, mais Paul, comment est-ce que tu as fait grandir les gens? Et un jour, je lisais en Galates, hein, c'est un livre du Nouveau Testament, et il donne le secret de son ministère. Il dit, mais c'est comme ça que j'ai formé les gens. Vous savez, une maman qui doit former ses enfants, on est tous dans le métier de formation. Soit on les forme bien ou mal. Mais... Et donc Paul, il avait une église, il avait plusieurs églises, et il devait former les gens. Il devait les éduquer, il devait les élever, il devait les aider à connaître Christ. Et donc comment est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il avait beaucoup de boulot, hein. Il y avait des milliers de personnes qui trouvaient Jésus à l'époque. Et donc là, il donne le secret de son ministère. Et c'est en Galates 4, 19. Et il parle aux chrétiens comme ses enfants. Il parle à ses chrétiens comme s'ils sont ses enfants. Et il y a les enfants biologiques, mais il y a aussi les enfants spirituels. Hein, on peut enfanter spirituellement. Et donc, Galates 4, 19, pour ceux qui veulent suivre, c'est pas grave si vous ne suivez pas, mais Galates 4, 19, il dit... mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. J'ai mes chapeaux, Paul. Bon, c'est un homme, hein. Je ne sais pas s'il sait de quoi il parle vraiment. Je ne sais pas s'il sait de quoi il parle vraiment. Moi, j'ai vu ma femme donner naissance 4 fois. Et ce n'est pas toujours comme une lettre à la poste. Hein. C'est quelquefois la boîte aux lettres est un peu serrée, il faut forcer un peu. Hein. Et je sais qu'elle a pas mal souffert. Mais quelquefois, je dis, mais peut-être Paul, il a souffert dans sa prière. Peut-être là, quand il voyait tous ces gens dans leur tristesse, et tous les gens qui adoraient des idoles, tous les gens qui n'avaient pas de l'espérance, peut-être il était vraiment touché dans ses reins. Il était touché dans ses tripes. Et il commence à... Oh Seigneur, je prie qu'ils soient sauvés. Oh Jésus, sois formé en eux. Sois formé en eux. Et je pense qu'il portait ça comme une maman. Il dit ici, j'étais dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et donc, c'est mon but ce matin. Hein, c'est que, qu'en écoutant, en étudiant ces deux noms, de Ephraïm, Manassé, que ces deux noms vont aider Christ à être formé dans notre cœur. Parce que Christ n'est pas imaginaire. Christ n'est pas juste un rituel ou une religion. C'est pas juste parce que, voilà, j'ai mon certificat de tel et tel, que je suis chrétien. Être chrétien, c'est vraiment avoir Christ dans le cœur. D'accueillir un enfant dans son cœur qui nous transforme. Et Paul, il priait pour l'Église que Christ soit formé en eux. Qu'il n'y ait pas juste Noël, la naissance, hein, dans la crèche de mon cœur, avec la paille. Voilà, merci Seigneur, que tu naisses là. Pas il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, que tu sois là, bien dans mon cœur, mais que tu ne restes pas un petit bébé. Que tu grandisses. et que tu sois formé en moi, et que tu m'apportes une libération, que tu m'apportes jour après jour, mois après mois, année après année, que ta présence grandisse dans mon cœur, que tu augmentes ma foi, que tu me donnes des victoires, Seigneur, que tu me remplisses de joie, que tu exauces mes prières. Vous voyez, Christ veut être formé en eux. Et je sais que c'est la prière de Pascal, je sais que c'est la prière de notre conseil. C'est on prie que Christ soit formé dans le cœur de chacun, en toute liberté, avec cette grâce merveilleuse dont Sabine nous a parlé ce matin. C'est une grâce, on ne peut pas forcer ça. Mais j'ai dit que moi j'ai eu vraiment envie d'accueillir ma petite Laetitia. J'ai vraiment envie d'accueillir ce petit enfant. Et elle m'apporte tellement, même si je ne la vois pas tous les jours. Et je sais que quand Christ est vraiment né dans un cœur, même si ce n'est pas toujours visible, ça se sent. Moi, je sens que j'aime Laetitia aujourd'hui. Elle est loin, mais je sens qu'elle est là. Et aujourd'hui, dans la louange, je sens que j'aime Jésus-Christ, même si je ne le vois pas. Même s'il n'est pas là avec une barbe, des sandales. Mais il est là. Et je le vois et je le sens. Et pas juste dimanche, je le sens lundi, mardi, mercredi. Parce que Christ est en train de grandir dans mon cœur. Et donc voilà, Genèse, chapitre 41 et verset 50. Encore pour ceux qui veulent suivre. Parce qu'on va aller plus profondément maintenant dans la découverte de nos petits-enfants. Hein? Dans la découverte que chacun ici, homme, femme, marié, célibataire, tout le monde, vous pouvez recevoir un enfant ce matin. Hein? Et les Coréennes, elles vont téléphoner à leurs parents, etc. Qu'est-ce que vous avez fait à l'église? Ah, je suis tombée enceinte. J'ai reçu un enfant. Oh, c'est quoi ça? Mais spirituellement, dans le cœur. Et donc, préparons-nous. Et donc, ce Genèse 41-50, ça parle du papa, premièrement, Joseph. Et Joseph, il avait une drôle de vie. Hein? C'était celui qui rêvait, c'était celui qui était aimé par son papa Jacob, et c'est celui après qui était rejeté par ses frères. Il a fait la prison, il a été hyper tenté dans sa vie. Il y avait Madame Potiphar qui essayait de le séduire. C'est passionnant l'histoire de Joseph. Hein? C'est comme un feuilleton qu'on voit à la télé, c'est incroyable. Et après, il arrive à être premier ministre. Et il est au service du grand patron à l'époque, c'est le pharaon. Et là, il est le numéro 2 de toute l'Égypte. Et il sauve l'Égypte de la famine et il sauve son peuple. C'est incroyable l'histoire de Joseph. C'est une histoire vraie. Et donc, au milieu de tout ça, il rencontre une femme et elle s'appelle Asnath. Il fait une sorte d'intégration culturelle dans ce pays, parce qu'il prend une femme du pays. Elle s'appelle Asnath. Et après, voilà, ils ont des enfants. Et donc, en verset 50, il dit, « Avant la première année de la famine, il naquit à Joseph deux fils, qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. » Et maintenant, c'est intéressant. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Manassé. Et donc Manassé, ça vient d'une racine hébraïque, hein, comme Laetitia, ça veut dire allégresse. Qu'est-ce que ça veut dire Manassé? Ménaché, celui qui fait oublier. Celui qui fait oublier. C'est quelque chose que Jésus va faire dans votre cœur si vous le recevez. Celui qui fait oublier. Mais il va plus loin parce que Joseph, il a eu un drôle de vie, Joseph. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je donne le nom Manassé. Si, il aurait pu nommer son fils Jihad. Je vais faire la guerre. Ou il aurait pu nommer son fils Amertume. Parce que je suis fâché contre tout le monde. Je ne vais jamais pardonner. Et il aurait pu donner un nom comme ça, mais on voit une œuvre de grâce en Joseph. Et le premier-né, il dit, je t'appelle Manassé. Après, il explique, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Quand même, Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Et parce que les plus grandes blessures arrivent là où on est aimé ou pas aimé, dans l'intimité, c'est là où on est blessé. Et il dit, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. C'est très psychologique ici. On va voir les psys, et quand vous allez voir un psy, il est inspiré par la psychologie freudienne. Il va dire, vous avez un problème avec votre père, si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, il dit, vous avez un problème avec votre mère, ou les deux, et voilà. Et vous allez faire le complexe d'Œdipe, et tous les trucs, hein, on voit ça. Après, bon, il y a Adler que je préfère, et après il y a Viktor Frankl, mais ça c'est une autre histoire. Mais souvent, si on pouvait régler nos problèmes avec le père, avec la maison de mon père. Et cette maison, c'est tout lieu d'autorité où on a été peiné. Quelquefois, il y a des blessures atroces. J'ose même pas y penser, tout ce qui arrive quelquefois dans les maisons. Et même dans les églises. Hein. On appelle quelquefois l'église dans la maison de mon père. Hein, et quelquefois, il y a des choses qui arrivent dans des églises qui nous blessent, mais profondément. Et on traîne des casseroles, on traîne des souvenirs. Oh, mais dans cette église, quelqu'un m'a dit ça, il m'a tellement blessé. Et dans le lieu d'amour, on est blessé. Et dans nos familles, on est blessé. Et dans notre passé, on est blessé, on est peiné. Et quelquefois, la maison, c'est un bureau, c'est à l'entreprise. C'est le foyer. Et donc, Joseph avait de quoi dire aussi. C'est quand il a dit à ses frères et sœurs, « J'ai un rêve, je suis différent. » Et il était différent. Parce que son père l'avait habillé, vous vous souvenez, avec un manteau multicolore. Et donc, ça frimait un peu. Ça frimait un peu, il était un peu différent. « Mais regarde-le, il est différent. Hein » Donc, les frères, ils étaient jaloux. Parce qu'il avait aussi une vision. C'était un gars qui avait une capacité de voir. Il était visionnaire. Et les gens étaient jaloux de lui. Et parce qu'ils étaient jaloux de lui, ils ont dit, on va le tuer. Et on va le jeter dans un trou. On va le jeter dans un trou. Et c'est ce qui s'est passé. Joseph était rejeté par sa famille. Jeté dans un trou. Mais c'est affreux ça. Et vous savez, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans ma vie. J'ai parlé avec beaucoup de gens dans ma vie. Et je vais vous dire que la blessure numéro un, c'est le rejet. C'est le rejet. Et nous, moi, j'ai le rejet en moi, hein, je l'avoue, j'ai le rejet. Je suis né, voilà, un tas de trucs que j'ai continué dans ma vie, ça m'a donné un sentiment de rejet. Peut-être c'est un petit rejet ou un grand rejet. Mais le rejet est comme une racine. Ça pousse, et il y a des longues racines comme ça. Et quelquefois, on doit extirper ce rejet. Mais je vais vous dire, et je ne dis pas que c'est toujours instantané, ça peut être le début d'un accueil aujourd'hui. Mais Jésus-Christ nous délivre de ce sentiment de rejet. Manassé. Si on accueille ce petit-fils, il vous guérit. C'est l'enfant de la guérison. C'est dans la Bible, il dit, en parlant de la croix, en parlant de Jésus-Christ, en parlant de cette sainte scène que nous venons de prendre, quand nous élevons la coupe et nous buvons le vin, il dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. On est guéri par le don de Jésus-Christ. Mais il faut accueillir cette guérison. Et comme Pascal a dit au début, par la foi. Et la foi vient de ce que nous entendons. Et donc là, avec la main, juste comme ça. Mets la main sur le cœur, là, pour ceux qui veulent. Hein. Et vous dites dans votre cœur, ou avec votre bouche, là, on va le faire à la fin aussi, mais vous dites Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Waouh! Tout un processus de vie, ça. Et je sais que j'ose même pas croire les souffrances que certaines ont dû vivre. C'est, la vie est très dure. Et on est très blessé quelquefois. Mais je sais que Dieu nous guérit. Je sais ça. Et je sais que cette Manassé, Dieu m'a fait oublier. Quelquefois, on n'oublie jamais vraiment, mais oublier, ça veut dire pardonner quelquefois. Oublier, ça veut dire que ça me fait plus mal. Il a guéri mes souvenirs. Je peux revivre cet événement, mais avec la certitude maintenant que je suis aimé, que je suis restauré, que quelqu'un a pris cette peine sur la croix. C'est pas que la peine n'existe pas, non, c'est très réel la peine et les rejets. Mais la peine et le rejet est tombé sur Jésus-Christ à ta place. Et c'est comme s'il enlève cette ancienne peau, comme un serpent change de peau. Et c'est comme s'il enlève toute cette ancienne peau, toute cette peau de rejet, et il nous vêtit avec une peau neuve. Et c'est ça, Manassé, qui nous guérit. Vous savez, j'aime bien la littérature. Je suis un artiste. Hein, j'aime bien lire la poésie et tout ça. Et j'aime beaucoup. Il y a un écrivain italien. Je ne sais pas comment le dire en français. Dante. Dante, on dit. Il a fait la comédie divine. C'est toute une histoire de l'enfer, le ciel et tout ça. Et ça a beaucoup marqué notre culture. Ça a pénétré notre culture. Et pour aller au ciel, parce que c'est ça qui m'intéresse, hein, parce qu'il y a Virgile qui accompagne des gens et il doit faire tout un voyage pour aller au ciel. C'est une allégorie. Mais avant d'aller au ciel, parce qu'il y a les gens qui disent, mais quand j'arrive au ciel, ça ne sera pas le ciel. On dit, mais pourquoi ça ne sera pas le ciel? Parce que je vais apporter au ciel tous mes mauvais souvenirs. Et ça va me faire souffrir. Mais même si je chante, alléluia, même si je suis là, mais dans le ciel, j'aurai le souvenir de la souffrance. J'aurai le souvenir de tout ce qui m'est arrivé. Mais bon, l'écrivain, il a une bonne réponse à ça. Il dit, voilà, il y a deux rivières qui coulent. Et tu dois boire à ces deux rivières avant d'entrer au ciel. Et la première rivière s'appelle l'été. Et ça, c'était l'oubli. C'était l'oubli. Mais pas juste l'annihilation de la pensée. C'était plutôt le réconfort de tout ça. Le réconfort. Et donc on devait boire ça, et tout d'un coup, tous ces mauvais souvenirs, ça passait. Et vous savez, le grand poète Baudelaire, il avait parlé de ça, et je vais citer juste deux ou trois lignes de Baudelaire. Il dit, j'ai bu où l'été pour engloutir mes sanglots apaisés. Et après il parle de... D'un côté, il parle d'une femme, hein, mais moi, je dirais, je parle de mon bien-aimé Jésus. Rien ne me vaut l'abîme de ta couche. L'oubli puissante habite sur ta bouche et la laité coule de tes baisers. La laité coule de tes baisers. Et là, je veux retraduire ça, je peux dire, Manassé coule du baiser de Jésus qui te donne. Que le Saint-Esprit te donne un baiser. Et il te donne un baiser sur ce lieu de rejet. Il te donne un baiser et il te dit, voilà, je sais que ça te fait mal, mais je suis ton bien-aimé et je mets ma main sur ton épaule et reçois le baiser de Manassé dans ton cœur. Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. C'est, on ne peut pas être continuellement pris en otage pour notre passé. Dieu nous libère de notre cellule. Et Dieu dit, allez, c'est le temps de vivre. C'est le temps de vivre. C'est le temps de passer du rejet à la réjouissance. Du passer du rejet à, à l'acceptation comme fils et fille bien-aimés de Jésus-Christ. Et donc Manassé. En Philippiens, hein, Paul, il a dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ceux qui sont en avant. Allez, on va le lire quand même, parce que c'est tellement beau. Philippiens 3 et verset 13. Il dit, je fais une chose. Si tu nous fais une chose, on peut faire 1000 choses quelquefois dans une journée, mais je dis, il faut faire une chose. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers l'avenir. Le meilleur vin est encore à venir. Il y a un avenir, même si vous êtes plus âgé et vous dites c'est foutu. Non, c'est pas foutu. Chaque jour, à partir de lundi, un nouveau chapitre peut s'ouvrir dans ta vie. C'est merveilleux. Manassé, Dieu m'a fait oublier ma peine et toute la maison de mon père. Il y a un deuxième enfant, hein? Il y a un deuxième enfant. Parce que ça, c'est un peu pour guérir le passé, mais une promesse d'avenir et encore une expression de Jésus-Christ. Ce deuxième fils, verset 52, il donna au second le nom d'Éphraïm. D'Éphraïm. Et Éphraïm, ça vient de l'hébreu Iphrani. Iphrani, et ça veut dire il m'a rendu fécond. Hein? Il m'a donné du fruit. Il m'a rendu fécond. Et donc là, il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation, dans le pays de ma souffrance, on traduit en anglais souffrance, le pays de mon humiliation ou dans le pays de mon affliction. Dieu m'a donné du fruit. Il m'a donné du fruit. Il m'a rendu fécond. Et là, je dirais, il y a deux fécondités. Il y a une fécondité intérieure de nous où on veut porter un bon fruit. Que quand les gens croquent en nous, quand tu rencontres quelqu'un, tu croques son esprit. Et oh, ça a un bon goût. Ah, je trouve la joie, je trouve l'amour, je trouve la patience. Et quelquefois, tu croques et tu dis, ça, c'est mauvais. C'est mauvais, là. C'est pas mûr ou c'est trop mûr ou c'est abîmé. Ça a pris un peu de gel. C'est pas si on prend ces fruits exportés quelquefois de... C'est quand tu es en Afrique et tu prends un ananas. C'est magnifique. Mais quand ça a déjà fait des kilomètres de voyage, c'est moins sucré. Et Dieu, il veut que, quand il a créé l'homme, il voulait que son cœur soit bien sucré. Que quand on croque dedans l'un l'autre, que ça fait plaisir d'être ensemble. Mais malheureusement, il y a le péché, il y a tout le reste. Et donc Dieu, il veut que Christ soit formé en nous. Il doit nous rétablir pour nous donner un bon fruit. Et il appelle ça le fruit de l'esprit. Ça veut dire le caractère de Jésus. Il utilise cette image. Et il veut que tu sois une belle fraise. Une fraise d'amour. Ça sent bon, les fraises fraîches. Oh, ça sent bon. Les cerises. Et là, mais on est tellement déçus quelquefois. Quand il y a une fraise, il n'y a pas de goût. C'est fade. Et c'est ça quelquefois, je dirais, une religion sans Christ. C'est fade. C'est prometteur, mais il n'y a rien dedans, il n'y a pas de goût. Et Dieu veut nous donner un peu de goût, que quand les gens nous voient, ils voient Christ. Il y a quelque chose de Jésus en nous, il y a l'amour, il y a l'accueil, il y a quelque chose. Et ça, ce n'est pas une doctrine, c'est quelque chose qui, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et donc je dirais que ça pousse en nous, que ça soit formé en nous, un fruit. Et souvent, vous savez... Il dit, tu m'as rendu fécond dans le pays de ma souffrance. Et quelquefois, les fruits les plus juteux, les plus merveilleux poussent dans la vallée, dans la souffrance quelquefois. Parce que aimer, c'est aussi souffrir un peu. Hein. Vraiment aimer. Pardonner, c'est mourir un peu. Et quelquefois, je dirais que ce fruit de Jésus, ça passe par des moments quelquefois d'humiliation, où on a tellement souffert, mais on a appris à pardonner, on a survécu, on a appris à faire grâce, on a appris à se taire, et on a appris à être guéri, à accueillir la grâce. Et la vie n'est pas facile, mais même nos souffrances peuvent porter un fruit si on les gère avec Jésus. Et là, je ne veux pas être juste superficiel en disant ça. Ça peut prendre du temps. Et il peut avoir les hauts et les bas. Et je ne réussis pas tout le temps. Quelquefois, j'ai une petite fruit amère qui va sortir de temps en temps. Et quelquefois, ça sort par la parole. Et quelquefois, j'aurai un peu trop mûr. Ou pas assez mûr. Mais j'essaie. Oh, Seigneur, aide-moi à grandir. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Que j'accueille encore cette grâce dans mon cœur. Et donc ça, c'est un fruit intérieur. Mais Dieu veut nous donner un fruit extérieur aussi. Il veut que nos vies se multiplient. Il veut la multiplication biologique et il veut la multiplication spirituelle. Et moi, je dirais que beaucoup d'églises souffrent. Moi, je pense que cette église source de vie a un passé aussi de souffrance. Quand je vois le CV, je dis, ça n'a pas toujours été facile. Mais là, quand j'ai préparé ce message, j'avais une prière pour l'église de Wavrin. J'ai dit, Éphraïm, Éphraïm, Seigneur, rends-nous féconds. Rends-nous féconds comme une église, qu'il y a des naissances spirituelles autour de nous, qu'on a les gens qui viennent, qui soient guéris, qui soient attirés par Jésus, qui accueillent la grâce ici, et que ça se multiplie. Éphraïm, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma souffrance. Et Wavrin, pour certains, était un pays de souffrance. Je ne connais pas votre pays d'humiliation et de souffrance. Peut-être que vous... Tu sais, on n'est pas toujours Alice au pays des merveilles. Hein? On est souvent Monsieur Dupont au pays de malheur, de souffrance, d'humiliation. Mais si on a un Manassé, parce que je commence avec Manassé. Et cette humiliation est guérie en Jésus. Mais à partir de ce lieu d'humiliation, tu peux porter du fruit. Vous comprenez? Là où c'était dur, là où c'était tellement difficile, mais vous avez accueilli la grâce là, Manassé. Vous avez accueilli l'enfant de la guérison, Jésus-Christ. Vous avez accueilli cette guérison. Et à partir maintenant de ce lieu où cette événement, ou cette attitude, ou cette honte, tu peux porter du fruit maintenant, là. Tu peux porter du fruit. Là où tu étais faible, là où tu étais humilié, maintenant c'est le lieu qui peut être un lieu fécond pour ta vie. Il ne faut pas fuir, il faut être guéri, et il faut porter du fruit. Et même nos lieux d'échec peuvent être les lieux de résurrection. Des lieux d'humiliation peuvent être des lieux de gloire. Tu m'as rendu fécond, Seigneur, dans le pays de mon humiliation. Parce que, vous savez, Joseph, il avait connu beaucoup de choses. Hein. Il avait connu la solitude. Il était humilié par la solitude. Il était humilié par la séduction d'une femme. Quelquefois, on est humilié par certaines séductions dans notre vie. Il avait été humilié par ça. C'était dur. Il est tenu bon hein, dans l'histoire, mais ça a dû être dur. Il y avait une femme plus âgée qui rôdait autour de lui chaque jour. Joseph, t'es beau, couche avec moi. Tu vois, c'est intéressant la Bible. Hein? Vous allez lire l'histoire de Joseph maintenant. Mais il a réussi. Mais après, il était accusé injustement. L'injustice, c'est une humiliation. Il y a des situations qui étaient tellement injustes. Peut-être vous avez vécu une injustice. Et Joseph, il avait vécu des injustices. Et il était mis en prison, injustement. Il était tellement serré. Il n'avait pas assez de terrain pour agir. Lui qui avait des rêves, il était réduit à quelques mètres carrés. C'était dur pour lui. C'était affligeant, c'était humiliant. Et après, il avait été complètement oublié pendant des années. On avait oublié même ses rêves. Et même il oubliait lui-même les rêves qu'il portait. Il avait été tellement affligé qu'il oubliait même les rêves et les promesses qu'il avait reçues. Je ne sais pas si vous êtes jamais arrivé là. Moi, oui. Je ne sais pas si quelquefois je prêche à moi-même ce matin. Parce qu'il y a des moments où on a reçu tellement de promesses, de rêves, de prophéties, Dieu va le faire. Et quand on est jeune, c'est bien. Moi j'ai vraiment, pendant des années, j'ai ce rêve de réveil. Ce rêve de réveil en France. Ce rêve de réveil en Europe. Mais surtout la France. Et quelquefois, on est tellement humilié en France, spirituellement. On souffre parce qu'on ne voit pas ce réveil. On voit quelquefois des trucs, des modes, des... Et même quand ça ne marche pas toujours comme on veut. C'est quelquefois un abus, une grande église qui promet mon émerveille, mais finalement, quand on touche un peu, ça ne parle pas à la société. Il y a des gens autour d'eux, ils ne connaissent rien, ils ne sont pas vraiment touchés par la beauté de Jésus. Et là, je ne parle pas de leur coller une religion. On veut coller à personne une religion, mais on veut leur coller une relation avec l'amour, une relation avec la guérison, une relation avec la fécondité. Et quelquefois on est déçu, mais je dis, mais Seigneur, c'est comme si le Seigneur me dit, mais tiens bon, dans ce lieu où tu as souffert, je donnerai la fécondité, il y aura une multiplication. Et donc là, avant la résurrection, il faut toujours une croix. Et je pense que ce principe de fruit et de fécondité est bien exprimé par l'apôtre Jean en Jean 12, 24. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, oh là c'est la mauvaise nouvelle, de tomber en terre et de mourir un peu, oh. Quand tu dis au revoir, on dit ça en français, non, au revoir, dire au revoir c'est mourir un peu, et il y a tellement d'au revoir, tellement d'absence, tellement de choses difficiles dans nos vies, qu'on meurt un peu, mais Jésus n'est pas, il est mort beaucoup sur cette croix, et il est tombé en terre comme un grain de blé. Mais ce grain de blé qui tombe en terre, il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, qui est mort un peu dans leur vie?
Moi, c'est horrible.
Oui, mais il y a une bonne nouvelle. Parce qu'après la mort, il y a la guérison. Et après la guérison, il y a la résurrection. D'accord? Et donc, si tu es mort un peu, écoute bien. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu as le courage de mourir un peu, de mourir à ton égoïsme, de mourir à ton péché, de mourir à toutes ces choses-là, tu peux aussi ressusciter en Christ. Et quand tu ressuscites en Christ, il y a tout un avenir de fécondité qui t'attend. Et donc voilà, mets la main ici. Il donna au second le nom d'Éphraïm. Donc on dit Éphraïm. Éphraïm. Car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays, dans le lieu de mon humiliation, de ma souffrance. Et donc ce matin, accueillons ces petits enfants de Rachel. Accueillons Christ dans le cœur. Et on peut dire Jésus-Christ, mais quelquefois j'aime bien l'Ancien Testament parce que ça dévoile plus de l'œuvre de Christ en nous. Et il y a profondément cette œuvre de guérison, parce que nos vies sont dures, le rejet surtout, la peine de la maison du Père, peut-être tous les complexes avec le papa, avec la maman. Même à 60 ans, on peut être complexé, on peut être réduit. Quand je vais chez ma mère, quelquefois, avec une parole, je suis réduit de nouveau à l'ado, même si j'ai 60 ans. C'est incroyable comment on peut être victime toujours de toutes sortes d'injustices, et c'est dans notre pensée, ça fait des sillons dans notre cœur, des ornières impossibles à quitter. Mais on peut quitter ces anciennes ornières. On peut quitter ces anciennes ornières avec un Manassé. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Et là, quand on est guéri, on peut envisager une nouvelle fécondité. Parce que là où j'ai souffert, c'est là où je vais porter du fruit. Donc j'aimerais terminer maintenant. Hein, et je vais faire une prière. Mettez mon main sur votre cœur. Hein, et je vais prier. Et je vais prier pour vous. Et je vais prier. Tu sais, Dieu est un Dieu de miracles. Et il peut vous donner aussi une fécondité physique aujourd'hui, pour ceux qui ont besoin de ça. Il peut guérir votre corps. Il peut guérir vos pensées, vos émotions. Il est capable de guérir ce qui est inguérissable par la psychologie et par la médecine. Même si je ne suis pas contre ces choses. Hein, il peut pénétrer votre cœur d'une manière tellement profonde. Et il le fait par le Saint-Esprit. Il le fait par l'Esprit qui est véhiculé dans des paroles de guérison, par les paroles que vous avez entendues. Et vous pouvez méditer après ces paroles. Et même quand vous êtes chez vous dans un petit moment où vous faites une balade, mettez la main sur le cœur. Ce n'est pas juste pour maintenant. C'est quelque chose que je vous donne pour régler des choses. Et quand vous êtes dans le rejet, vous mettez votre main, vous dites, Manassé, allez, je ne vais pas me laisser avoir par ces anciennes ornières. Allez, tu m'as libéré, Manassé, j'accueille Christ. Tu m'as fait oublier ma peine. Voilà, je ne suis plus victime de toutes ces choses horribles. Et après, quand vous êtes dans votre stérilité, dans le caractère, quand vous êtes méchant et vous n'arrivez pas à porter, à ne pas être une belle fraise, mais vous dites, Seigneur, donne-moi Ephraïm, rends-moi fécond, donne-moi ce caractère qui aime, Seigneur. Et rends-moi fécond dans la vie, Seigneur. Rends-moi fécond. Et donc, juste pour signaler tout ça, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut juste se lever? Et on met la main sur le cœur. Et quelle joie j'ai eue d'accueillir ma petite Laetitia, petite fille. Et maintenant on accueille avec joie deux petits-fils. Ils vous donnent. Et c'est Christ, Christ en vous, Christ formé en vous. Et donc Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Et donc, on va répéter tous cette parole-là. Moi, je vais le dire après, vous répétez après moi. D'accord? Manassé. Dieu m'a fait oublier. Toute ma peine. Et toute la maison de mon père. Ephraïm. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma souffrance. Seigneur, tu as entendu ces confessions. Tu as entendu ces confessions. Agis maintenant. Saint-Esprit, tombe sur des cœurs. Visite-nous. Rends-nous féconds. Et Seigneur, guéris nos cœurs. Extirpe maintenant toute racine de rejet de nos cœurs. Et Seigneur, remplis-nous de Christ. Glorifie ton nom en nous, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.